Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine, Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence, je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel entretien avec l'une des artistes invitées au 20e Festival de Rocamadour, la pianiste Lise de la Salle. Elle est en concert ce samedi 23 août à 20h30 dans la vallée de l'Alzou, où l'orchestre de la Garde républicaine, dirigé par Bastien Stille, va l'accompagner dans l'exécution du concerto en sol de Maurice Ravel. Bonjour Lise de la Salle, merci d'être au rendez-vous pour cette interview, la deuxième que j'ai le plaisir de faire avec vous, puisque vous étiez déjà présente lors du Festival 2023, et c'était aussi pour un concert dans la vallée d'ailleurs.
Oui, exactement. Bonjour et merci de m'accueillir sur vos ondes.
Puisque je viens de l'évoquer, revenons d'abord sur ce concert de l'édition 2023 du festival, donné donc lui aussi dans la vallée de l'Alzou et avec l'orchestre de la Garde républicaine. Vous aviez joué le concerto numéro 2 de Rachmaninoff, un compositeur que vous aimez tout particulièrement et dont vous avez enregistré l'intégrale des 4 concertos. Est-ce que ce concert d'il y a 2 ans est resté gravé dans votre mémoire ?
Ah oui, parce que c'est un lieu qu'on n'oublie pas. C'est un lieu d'une beauté assez fascinante. Et en tant que musicienne, j'ai aussi découvert l'histoire de Poulenc et de son inspiration face à ces paysages sublimes et qui inspirent en effet une majesté. On peut difficilement passer à côté d'un lieu comme ça, même si on n'y est pas... Je pense que même les gens peu sensibles aux beautés naturelles, en tout cas au paysage ou à la nature, ne pourraient pas se retrouver dans ce lieu sans en ressentir une émotion très, très prenante. Donc oui, évidemment, je m'en souviens. Et puis, c'était aussi ma première collaboration avec l'orchestre de la Garde républicaine. Donc, c'était vraiment une belle rencontre, tant avec l'orchestre qu'avec le lieu. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas hésité une seconde quand on m'a proposé de revenir dans ces mêmes circonstances.
Puisque vous évoquez ce décor incroyable de la vallée au pied de la cité, jouer Rachmaninoff ou Ravel dans un environnement naturel, est-ce que ça prend une dimension particulière dans la mesure où ce sont des compositeurs chez qui l'on sent un rapport fort à la nature, en tout cas une inspiration qui lui est liée ?
Alors, c'est une très bonne question à laquelle je ne suis pas sûre d'avoir une réponse. Il y a toujours un petit plus, une émotion, une énergie particulière de jouer en plein air, de jouer... Alors, il y a plein air, hein, et c'est vrai que là, je ne connais pas vraiment d'autres festivals où on est vraiment aussi proche de la beauté, de la grandeur de la nature. Parce que, par exemple, j'étais la semaine dernière au festival d'Aspen aux États-Unis où j'ai joué également le concerto de Ravel. Et c'est vrai que le village d'Aspen est absolument époustouflant, à plus de 2000 mètres d'altitude dans les montagnes du Colorado, mais la scène est complètement déconnectée du paysage, c'est-à-dire que on ne voit rien, des montagnes, c'est une très belle scène, une très belle tente. On pourrait dire c'est un plein air, c'est un semi-plein air, mais il n'y a pas cette inspiration directe du lieu, alors qu'à Rocamadour, dans la vallée, on est au milieu de la roche, on est au milieu du soleil couchant, donc c'est tout à fait différent, et en effet, je pense qu'on ne peut pas ne pas ressentir quelque chose de plus. Alors vous dire ce que c'est exactement, j'aurais du mal, mais en tout cas, il y a un appel très fort, presque un élan vital du fait d'être dans ce lieu.
Nous allons beaucoup parler de Ravel, bien sûr, mais je voudrais qu'on s'attarde un peu sur Rachmaninoff et les rapports que vous entretenez avec sa musique. Vous l'avez beaucoup joué en concert, vous avez enregistré ses 4 concertos, comme je le rappelais tout à l'heure. Pourquoi ce compositeur vous touche-t-il à ce point ? En tant que musicienne, bien sûr, mais peut-être aussi par sa personnalité et la vie qui fut la sienne.
En fait, Rachmaninoff, pour moi, c'est un compositeur qui a tout. C'est-à-dire que je trouve qu'il parle à toutes les âmes, aussi bien plus jeunes, en tout cas moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, puisque j'ai rencontré sa musique en étant une jeune adolescente. Et je vis avec lui, je grandis avec lui, et il touche les personnes... qui ont déjà toute une vie derrière elles, comme nos grands-mères, ou grands-parents plutôt, grand-mère, grand-père. Mais en tout cas, c'est un compositeur qui, pour moi, a le pouvoir de parler à tous les cœurs, parce que c'est pour moi aussi un des grands traits du génie de sa musique. Il a un art de la ligne, un art de la phrase musicale, un art de la mélodie, qui rend la chose à l'écoute presque simple. on se souvient de, évidemment, puisque vous en parlez, du deuxième mouvement du deuxième concerto que j'avais eu la chance de jouer, mais il y en a plein d'autres, mais ce sont des mélodies tellement puissantes qu'on en oublie presque la complexité harmonique qui est pourtant bien là. Mais je crois que c'est un des traits de génie en général, pas seulement des compositeurs, hein, mais des écrivains, des peintres, et des chorégraphes, etc. C'est de donner l'impression que c'est fluide, que c'est simple, que c'est évident, alors qu'il y a un travail et une recherche absolument phénoménale derrière. Mais c'est vrai que comparé à d'autres compositeurs qui lui sont contemporains, Rachmaninoff a vraiment ce lyrisme qu'il sait déployer et faire rayonner de manière absolument spectaculaire.
Alors, si j'ai voulu qu'on s'attarde un peu sur Rachmaninoff avant de parler de Ravel, c'est parce que vous avez enregistré un CD Rachmaninoff-Ravel il y a un peu plus de 20 ans. Je crois que c'était votre premier enregistrement d'ailleurs. Ce n'est certainement pas un hasard si vous les avez réunis sur ce disque. Alors, quel lien y a-t-il entre les deux, selon vous, au-delà du fait qu'ils sont d'exacts contemporains, bien sûr, et qu'ils ont beaucoup composé pour le piano?
Je pense que, en fait, le premier disque que j'ai fait, pour être totalement honnête avec vous, c'était en même temps un choix réel de compositeur et de jeu de miroir, et en même temps une manière de me présenter parce que j'avais 14 ans. J'étais nouvelle sur la scène, j'étais inconnue, je me présentais. Donc, en fait, ce disque était pour moi une vraie carte de visite, ou en tout cas une photo, ou en tout cas, enfin, vous saisissez l'idée, une manière de dire, voilà, je suis pianiste, je m'appelle Lise de la Salle, et voici un petit peu mes origines, parce que, également, pour moi, j'étais dans toujours cette optique de me présenter, une pianiste française, évidemment, mais avec beaucoup de sang russe en moi. J'ai plus de trois quarts de mon héritage familial et de ma lignée, enfin de mon sang, qui vient de là-bas. Donc je trouvais que le jeu de miroir entre ces deux compositeurs qui, comme vous l'avez dit, ont vécu au même moment, à la même période, à la même époque, déjà c'était fascinant de les mettre face à face parce que ils sont totalement à l'opposé l'un de l'autre. Et en même temps, c'était une manière de dire qui j'étais, parce que ce sont deux compositeurs que j'ai eu la chance de rencontrer très jeunes. Les deux, j'étais une jeune enfant qui devenait jeune fille, donc j'avais entre 10 et 12 ans. Et les deux sont restés extrêmement présents tout au cours de ma vie et sont encore parmi les compositeurs que je joue le plus et que j'aime le plus. Donc en fait, c'était un choix qui, avec le temps, s'est révélé être non pas uniquement pertinent sur le moment, mais pertinent quant à ma vie de musicienne.
Et dans la durée, eh bien, nous allons nous intéresser un peu plus à Ravel et surtout à son concerto en sol dans 2 ou 3 minutes. Mais pour rappeler des souvenirs à ceux qui ont assisté à votre concert de 2023 dans la vallée de la Zou, nous allons d'abord vous écouter dans le concerto numéro 2 de Rachmaninoff, celui que vous aviez joué ici il y a 2 ans, c'est le fameux début du mouvement Moderato.
Thank you.
le début du premier mouvement moderato du concerto numéro 2 de Rachmaninov, joué par Lise de la Salle, accompagné ici par la Philharmonie de Zurich dirigée par Fabio Luizzi, un extrait de votre intégrale des quatre concertos, le concerto en sol de Ravel maintenant. Vous l'avez joué en concert à de nombreuses reprises. Où le placez-vous parmi les nombreux concertos pour piano qui ont pu être composés depuis que cet instrument existe ?
Alors, je pense que j'ai peut-être une relation particulière aussi avec ce concerto du fait de ma nationalité, du fait d'être une pianiste française, évidemment. On va me le demander peut-être un peu plus que d'autres œuvres parce que ça marche bien, ça raconte une belle histoire. Et je ne m'en plains absolument pas parce que pour moi, mis à part ce facteur, c'est une des plus grandes pages écrites pour le piano du répertoire français. Je trouve que ce concerto est un petit bijou. Chaque mouvement raconte une histoire, chaque solo d'orchestre, parce que c'est quand même une œuvre qui demande aussi beaucoup de qualité au niveau de l'orchestre. Chaque solo orchestral, il y en a pas mal, évidemment le plus connu étant celui du cor anglais dans le deuxième mouvement, mais il y a des solos de trompette, il y a des solos de harpe, il y a des solos de pas mal de vent, évidemment, de flûte et de hautbois. Mais au-delà de ça, c'est une œuvre qui, pour en tout cas, moi personnellement, me fait l'effet de 3 expressos avec un bon jazz New Orleans, c'est un peu mon cocktail bonne humeur. Et je trouve qu'on retrouve ces éléments de jazz, on retrouve cette énergie, on retrouve cette joie de vivre. Et c'est aussi agréable pour moi de l'écouter, ce que je fais moins que de le jouer. Donc j'ai beaucoup de plaisir à le jouer.
Petite anecdote, il y a quelques années, j'avais reçu François-René Duchâble, pianiste français bien connu, dans une de mes émissions, et je lui avais demandé ce qu'il pensait du concerto en sol de Ravel, puisqu'il l'avait enregistré et joué souvent en concert. Et voilà ce qu'il m'avait répondu, c'est un petit concerto qui vaut surtout pour son mouvement lent, ce magnifique adagio assai. C'était sans doute un peu une provocation de sa part, mais en gros, ce qu'il voulait dire, ce que j'en ai compris en tout cas, c'est que c'était avant tout un concerto pour l'orchestre, plus que pour le piano, et il reconnaissait le génie de l'orchestration qu'était Ravel. Qu'est-ce que vous en pensez personnellement ? Vous avez un peu répondu déjà.
Oui, j'entends le propos, j'entends aussi l'ironie et la petite pique, le petit clin d'œil qui peut s'accompagner. Je pense que c'est évidemment un concerto qu'on connaît et qu'on admire et qu'on aime pour son deuxième mouvement qui est inégalable. Il n'y a rien dans l'histoire du répertoire qui s'en rapproche, absolument rien. Cette immense cadence du début qui pour moi est vraiment l'entrée dans un jardin secret où Ravel va se balader avec beaucoup d'émotions, mais toujours énormément de pudeur. Donc il y a de la nostalgie, il y a de la tendresse, il y a une beauté absolument inouïe. Et moi qui suis un petit peu une maniaque, une obsédée de la recherche sonore et du son, c'est un moment que j'affectionne absolument et très particulièrement dans ce concerto. Donc oui, le deuxième mouvement, évidemment, met tout le monde d'accord, c'est une évidence. Mais je trouve, comme je vous le disais, que tant le premier mouvement que le final ont des qualités tout à fait remarquables, non pas uniquement orchestrales, évidemment, l'orchestration est très riche, mais justement de dialogue avec l'orchestre, de rythme, d'énergie, de dynamique. Il y a aussi une très belle, plus petite, mais il y a quand même une très belle cadence dans le premier mouvement pour le piano, qui justement, à mon sens, doit se rapprocher d'une sonorité très très orchestrale, d'ailleurs qu'on a juste avant, puisque cette cadence est précédée par une petite, je ne sais pas si on peut dire aussi cadence, mais en tout cas des solos de harpe, enfin le solo de harpe avec un tapis sonore de cordes, et après ça passe au vent, ce qui est absolument magnifique. Et le final, pour moi, c'est vraiment, ça doit vous faire bouger de votre chaise, ça doit vous faire vous lever et vouloir danser, tellement l'énergie vous emporte. Il y a un rythme qui ne doit pas bouger, d'une micro-gradation de métronome, si on se réfère à cet instrument de mesure. Mais en tout cas, il y a une pulsation, il y a un rythme qui vous prend aux tripes et qui vous emmène. Et le final est très court, hein, c'est 3-4 minutes, donc qui vous emmène d'un bout à l'autre, de la première à la dernière note, avec un grand sourire et avec une joie et une exubérance que j'aime beaucoup, parce que la musique de Ravel sait être exubérante, comme on peut l'entendre dans ses œuvres symphoniques également, comme la valse ou évidemment d'autres œuvres pour piano. mais il y a une énergie de vie qui est toujours très élégante, mais qui ne peut pas ne pas vous attraper.
Je suis bien content de vous entendre dire tout ça, parce que moi, c'est un de mes concertos préférés, le concerto en sol de Ravel, mais il est vrai que je suis un inconditionnel de ce compositeur. Alors, puisqu'on parle du concerto en sol, l'œuvre pour piano seul de Ravel, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Sur votre CD Rachmaninoff-Ravel, vous aviez notamment enregistré les 5 pièces de Miroir.
Alors, c'est bien, parce que nous sommes tous les deux des inconditionnels de ce compositeur. Je joue pas toute l'intégrale, loin de là, du piano solo de Ravel, mais j'en joue pas mal. J'ai une admiration sans limite pour ce compositeur. Bah, je reste dans la même veine, hein, qui pour moi, c'est vraiment exprimer une finesse, un raffinement qui est très en lien avec les couleurs sonores et la recherche du son, la recherche de... Il y a beaucoup de pièces qui sont très imagées, soit par leur titre, soit par ce qu'elles racontent, soit si elles sont liées à un poème, je parle à Gaspard, de la nuit, où il y a toujours un contexte visuel qui peut donner à réfléchir, à penser, et qu'on prenne une barque sur l'océan, c'est vraiment... On doit ressentir à l'écoute le frisson qu'on ressent quand on est au bord de la mer et que le soleil se cache et que tout d'un coup il fait un petit peu froid et que l'eau reçoit juste ce reflet du soleil. Il y a un sentiment presque grisonnant mais lumineux. Gaspard Delany, on doit entendre dans le JB vraiment cette espèce de récurrence, de presque un harcèlement de la mort qui vient frapper, et ça doit être un son très étouffé, très blafard. Enfin, il y a toujours une histoire à laquelle on peut se raccrocher, et c'est absolument élégant, absolument détaillé, absolument fin. Je fais mon cocorico, mais c'est très français. Et en même temps, ce que j'adore, c'est qu'il sait libérer lâcher les fauves. Là, je pense par exemple à Scarbeau ou à justement au final du concerto, où il y a une vélocité, une virtuosité incroyable et une énergie, et on s'envole et ça nous emmène loin. Donc il y a une puissance imaginative et émotionnelle folle dans sa musique, et c'est ce qui me fascine dans ce compositeur qui, quand on connaît un peu sa vie, était quelqu'un de très méticuleux, très élégant, presque timide, et parfois, autant ça on l'entend tout le temps, mais parfois on a l'impression que vraiment grâce à la musique, il devient presque quelqu'un d'autre, ou en tout cas il nous offre une facette de son visage que ses biographies ne dévoilent pas toujours.
Ah oui, je suis persuadé qu'il a mis beaucoup de sa vie intérieure et de l'homme secret qu'il était dans sa musique. Je n'ai pas de version du concerto en sol de Ravel par Lise de la Salle à faire écouter à nos auditeurs, mais j'ai la version que vous aviez enregistrée, ben justement, d'Une barque sur l'océan, une des pièces de Miroir. On l'écoute tout de suite.
Thank you.
Une barque sur l'océan, extrait des Miroirs de Maurice Ravel, interprété par Lise de la Salle. Dernière question avant de conclure cet entretien. Vous avez fait paraître en début d'année un CD sous le label Naïve, auquel vous avez donné un titre assez énigmatique, Fantasmagoria. En fait, il est consacré à des pièces de Franz Liszt, un de vos compositeurs favoris. Pourquoi lui avoir donné ce titre ?
Parce que c'était une histoire d'amour avec la sonate depuis de nombreuses années. Et il y a plusieurs aspects à ce titre. C'est rien que par rapport à la sonate déjà, que je trouve, pour moi, c'est vraiment un des chefs-d'œuvre absolus du répertoire romantique pour piano seul de cette époque. Il n'y a rien de tel et c'est une œuvre, bon, moi, c'est pas nouveau, hein, je suis absolument fan, convaincue, absolument amoureuse de la musique de Liszt depuis toujours. Je l'ai enregistrée déjà un certain nombre de fois. Et je trouve que cette sonate est vraiment la quintessence de sa musique et ce qu'elle raconte aussi de cette opposition entre le bien et le mal, la clarté et les ténèbres. Bon, la sonate en elle-même, on pourrait en parler des heures, mais il y a tout ce mythe de Faust également qui peut venir augmenter son aura. Et par rapport même à cette sonate, je trouve qu'on est souvent dans cette zone un peu mystérieuse de clarté lumineuse, mais qui serait presque derrière un voile, tant elle est intérieure et elle est parfois très suggérée et presque comme dans un rêve. Donc Fantasmagoria, c'est la fantaisie, c'est la fantasmagorie, et ça portait en soi le titre, cette notion de voir quelque chose à travers un voile, donc on peut jamais vraiment l'attraper, on peut jamais vraiment poser sa main dessus. Et après, le fait d'avoir dû créer un programme autour de la sonate et d'avoir donc décidé pour une autre grande œuvre qui est Les Réminiscences de Don Juan. C'est une œuvre qui est beaucoup, beaucoup moins jouée là pour le coup que la sonate, qui était en partie une découverte pour moi. Je connaissais évidemment des extraits très connus comme le thème de la Fiderella Mano. Pardonnez-moi mon italien qui n'est pas absolument magnifique. Donc quelque chose qui aussi renouait avec cet esprit de dualité, parce que dans ces réminiscences, de par les thèmes que Liszt choisit, on a vraiment un voyage qui nous emmène des ténèbres avec le thème du commandeur, à la joie de vivre avec l'exubérance de la fin de la pièce, tout en passant au milieu par ce thème dont je tairai le titre en italien, mais qui est tout autour de l'amour et de la séduction et de la tendresse et de la sensualité. Mais encore une fois, jamais de manière directe et entre guillemets simpliste, parce que quand on connaît un peu l'histoire de l'opéra, il y a toujours des tournures, des recoins d'ombre et de lumière, c'est jamais du premier degré, donc ça se mettait en miroir d'une très jolie manière en fait. Et le titre s'est imposé à moi au cours de toutes ces réflexions.
Merci beaucoup Lise de la Salle, ça a été encore un plaisir de m'entretenir avec vous. Je rappelle que vous allez jouer le concerto en sol de Maurice Ravel ce samedi 22 août à 20h30 dans la vallée de l'Alzou au pied de la cité de Rocamadour. Vous êtes accompagné par l'orchestre de la garde républicaine sous la direction de Bastien Stille. Pour cette soirée entièrement consacrée à Ravel, il y a aussi au programme La Valse, Le Tombeau de Couperin, Pavane pour une infante défunte et bien sûr l'inévitable Boléro. Il reste des places et la billetterie est en ligne à l'adresse www.rocamadourfestival.com. Merci d'avoir été fidèle à l'écoute de cette émission. Rendez-vous demain à la même heure pour un autre entretien avec un musicien programmé au Festival 2025. Très bon après-midi à tous sur Radio Présence.
Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine Éric Dupri.